France Inter. Le masque et la plume. Du cinéma au programme aujourd'hui avec un film de prison, un biopic musical ou encore un thriller érotique. Et pour André Battre, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Colombani, Dupont, Xavier Le Herpeur de la revue La 7ème Obsession et de France Inter avec une chronique dédiée aux séries dans la matinale du samedi, Nicolas Chaler du Nouvel Obs et Charlotte Lipinska de Télématin. Nous allons parler de Borgo, réalisé par Stéphane de Moustier, Civil War, super production indépendante en tête du box-office américain, Back to Black, soit la vie d'Amy Winehouse portée sur grand écran, Amal, un esprit libre, portrait d'une enseignante en lutte, et enfin Challengers, avec Zendaya, en coach de tennis, manipulatrice. Vous savez tout, moteur, ça tourne, action. Avant que je ne me lance dans le récit de vos courriers, j'aimerais qu'on salue la mémoire du cinéaste Laurent Cantet, dont on a appris le décès à l'âge de 63 ans jeudi dernier. Laurent Cantet avait reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2008 avec Entre les Murs, adapté du roman de François Bégodeau, et qui déjà faisait d'un collège et du métier de prof le reflet de tout ce qui traverse la société française. Et Cantet, c'est tout de suite un premier film sur le monde du travail, avec Ressources humaines, c'est aussi Vers le Sud, avec Charlotte Rampling. Quelques mots sur son cinéma, Xavier ?
Il restera pour moi l'un des rares cinéastes à avoir réussi à mettre en scène l'univers littéraire très particulier de Joyce Carol Oates. Je crois que vous en parlerez la semaine prochaine dans l'émission littéraire.
Oui.
Avec Foxfire, il y avait une vraie traversée non seulement de la littérature mais aussi de la géographie, puisque c'est une autrice américaine et que Laurent Cantet était un Français. Et il avait trouvé, je trouve, une justesse absolue dans cette adaptation. Et j'aime beaucoup le cinéma de Laurent Cantet, mais il reste pour moi vraiment celui qui a réussi cela, adapter une auteure très particulière à adapter, et il l'avait fait avec beaucoup d'intelligence, et tout son cinéma l'était.
Charlotte.
Pour moi, c'était vraiment un cinéaste extrêmement rigoureux qui avait un talent, je trouve, tout particulier pour mettre en scène la parole. C'est-à-dire que tous ses films sont beaucoup sur des confrontations d'idées. Alors, il y a le monde du travail, comme tu l'avais dit, avec Ressources humaines. Évidemment, Entre les murs, on s'en souvient. Les films de classe, par exemple, on en a eu beaucoup depuis. Et finalement, ce film, depuis plus de 20 ans, reste l'étalon, le paradigme de la réussite et d'une mise en scène extrêmement rigoureuse et magnifique d'une salle de classe en ébullition sur l'éducation. C'est un cinéaste qui a toujours été tourné vers la jeunesse et vers aussi avec une auscultation du monde qu'il trouvait, de la société de plus en plus violente, que ce soit dans une classe en monde du travail ou dans la sphère médiatique, avec Arthur Rimbaud, qui restera son dernier film. Oui, il va beaucoup, beaucoup nous manquer.
Nicolas.
Il a toujours un peu interrogé les zones un peu grises de la société, assez complexes, avec des personnages souvent assez insaisissables et assez contradictoires. Et notamment, le dernier Arthur Rimbaud était assez parlant là-dessus. Il y a un de ses films qui s'appelle L'Atelier, et je trouve dans son cinéma, il y a un peu cette idée-là de mélanger à la fois des acteurs qui n'étaient pas des acteurs, de faire jouer des non-acteurs, et d'essayer même de trouver la forme et le propos du film en le faisant. Il y a un côté un peu comme ça, atelier d'expérimentation dans son cinéma qui était intéressant, moi qui ne m'a pas convaincu pour tous ses films, mais aujourd'hui, quand on voit tous les films qu'il y a en ce moment sur l'école, et qu'on voit ce qu'il avait réussi avec Entre les murs, je trouve que le film prend une valeur avec le temps assez folle, parce que je crois que c'est un des films les plus intéressants sur cette dialectique prof-élève. Et lui, ce qu'il racontait, c'est qu'il avait voulu montrer l'intelligence en action des deux côtés, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les films qu'on voit en ce moment sur l'école, et ils sont nombreux.
Et d'ailleurs, il y en a un au programme du masque voilà. De ce jour. Florence.
Oui, moi je rejoins ce que vous avez dit sur la force de ce cinéma très politique, très ancré dans la société, et avec aussi une dimension documentaire, néo-documentaire, ce travail avec des non-acteurs qui est toujours très fort. J'aime beaucoup ce film Foxfire aussi, qui était un film très en avance sur son temps, avec un propos féministe assez virulent. Peut-être rappeler aussi qu'il avait fait L'Emploi du Temps, qui était un très beau film.
Sur Jean-Claude Roman.
Voilà, inspiré par l'affaire Roman, mais ne prenant pas le parti de dérouler l'affaire Roman telle qu'on la connaît, faisant là aussi un pas de côté par rapport à la tragédie. Et ça résume assez bien la force de ce cinéma, qui n'était jamais tout à fait là où on l'attendait.
C'était Laurent Cantet, cinéaste. Je n'ai pas les moyens d'aller au cinéma, mais vous me permettez de donner le change, nous écrit Luc. Comment parler des films qu'on n'a pas vus ?
facile, écoute le masque, poursuit-il. À l'occasion d'une discussion entre potes, je me suis récemment extasiée sur le plan d'ouverture du film « Le mal n'existe pas ». Ah, cette contre-plongée sur la cime des arbres en musique, magnifique. Je sais, c'est pas terrible, mais offrez donc des places de cinéma. Je n'ai jamais eu ce film sous les yeux. Grâce à vous, j'ai au moins les premières images dans le crâne. La plupart de vos courriers concernent d'ailleurs les critiques divisées à cette tribune pour Le mal n'existe pas du japonais Ryuzuke Hamaguchi. Pour bref rappel, on y suit un père qui vit seul avec sa fille dans une forêt, tandis qu'une agence de com annonce l'installation d'un camping aux membres du village où ils vivent. Ce projet est en promesse de pollution et de déséquilibre. Pierre Voisin de Saint-Brieuc attribue un sous-titre inédit à ce long métrage, je vous le livre. Qu'est-ce qu'on s'emmerde à la campagne ? On marche longtemps sous les frondaisons, on coupe longtemps du bois, on va chercher longtemps de l'eau dans la forêt, et quand par bonheur on vous annonce qu'on va au resto, le patron fait la gueule. C'est magnifiquement chiant, conclut-il. Claude Denet de Gap dit quant à lui qu'entre contre-plongée sur les arbres et gros plan sur le wasabi, à l'issue de 20 minutes de projection, je me suis demandé ce que je pouvais en penser, et chez moi c'est un signe. Celui de l'ennui. Hamaguchi cherche à se faire valoir à travers sa mise en scène, renchérit Jean-Jacques Corio d'Aix-en-Provence. À la sortie du film, nous nous sommes retrouvés à une dizaine de spectateurs, demandant les uns aux autres l'explication des 5 dernières minutes. Eh bien, ce fut peine perdue. Encore plus nombreux sont les mails qui, au contraire, célèbrent le film d'Hamaguchi. Et une dizaine d'entre vous, je cite, « se portent volontaires » pour en expliquer la fin, fin que je n'évoquerai pas ici, évidemment. Fanny qualifie « Le mal n'existe pas » de hautement poétique. Pierre Cusor dit « sublime » et « hypnotique, il suffit de se laisser envahir ». Et Jérôme ferme le banc en parlant de ce cinéma comme d'un bon vin, subtil et long en bouche. Lucette de Chavigny s'agace, elle, de Madame Hoffman, dernier film documentaire à vos souhaits, de Sébastien Lifshitz, dédié au portrait d'une femme infirmière dans l'hôpital public pendant 40 ans. Lucette écrit « J'ai aussi exercé ce métier pendant 4 décennies et je n'en peux plus, je la cite, de la version « Mère Teresa » de cette profession. La réalité est bien plus complexe et subtile que la seule bienveillance. Au contraire, Christine de Montigny-le-Bretonneux, qui précise être infirmière elle aussi, fustige les critiques avec ces termes « Descendez de votre piédestal, sortez de votre monde, Madame Hoffman est magnifique ». Enfin, nous avons reçu une lettre manuscrite à la graphie appliquée et ronde. Elle commence comme ceci. Je vous écris pour donner mon avis sur SOS Fantôme, la menace de glace, en tant qu'auditeur de 10 ans et demi. J'ai plutôt aimé, contrairement à vous, qui avez des choix plus larges pour visionner des films. Ce n'est pas simplement une histoire où, ouvrez les guillemets, il y a un gros fantôme avec une bande de bras cassés joyeux qui le battent et c'est tout. Le film utilise les rapports entre les humains et les fantômes humains pour complexifier l'histoire. Post-scriptum, j'aime beaucoup vos émissions que j'écoute tous les dimanches. Et c'est signé Adrien. Se dirige-t-on vraiment vers une guerre civile ? S'interrogeait le New York Times il y a 2 ans. Et à cette question, le cinéaste et romancier Alex Garland répond oui. Son 4e long métrage s'intitule Civil War et il y met donc en scène une guerre civile qui ravage les États-Unis. Ça se passe dans un futur qui semble très proche et voici les faits. La Californie s'est alliée au Texas, qui l'eût cru, pour se battre contre les forces fédérales menées par un président taré qui n'hésite pas à bombarder ses concitoyens et qui se retranche dans la Maison Blanche comme dans un bunker. Lee, incarnée par Kirsten Dunst, est une reporter de guerre qui rencontre des événements et qui va s'embarquer dans un voyage avec 2 autres collègues, plus une jeune femme qu'il admire et dont elle va devenir le mentor petit à petit. 3 générations de journalistes, donc, sont réunies dans une voiture qui part de New York pour rejoindre Washington et tenter une ultime interview du président. Ce road movie les met et nous met face à la violence et à la barbarie, sachant que Civil War s'intéresse plus au métier de reporter qu'à l'analyse politique d'une guerre civile qui pourrait menacer les États-Unis. Charlotte.
Ah oui, alors c'est même pas qu'il s'intéresse plus, c'est que je pense qu'il y a un gros malentendu, moi, sur ce film qui ne traite ouais. absolument pas de la guerre civile. Il n'y a aucun discours politique dans le film. Cette guerre civile aux États-Unis, c'est un contexte, voire un décor, mais ça n'est absolument pas le sujet du film. Donc, on est très frustré si on s'attend à y voir ça. En effet, c'est un film hommage au métier de reporter de guerre, avec toutes les questions que ça suppose, à quelle distance on photographie la mort, quels risques on est capable de prendre pour en témoigner, ou voire même pour avoir un scoop. Et le film est frustrant sur ce fond-là, et en même temps je le trouve terriblement efficace, parce que Alex Garland arrive quand même à nous tenir en tension quasiment 2 heures sans aucun fil narratif autre que on va à Washington. Et il arrive à le faire avec quand même des rencontres inattendues. Alors à ce titre-là, il y a une scène avec Jesse Plemons qui vous cloue quand même au fauteuil, et par un travail du son et du contraste qui fait à nous balancer des musiques improbables sur des scènes d'horreur, le film est très inconfortable à voir. Il me mettait très mal à l'aise, et en même temps, je trouve, oui, d'une efficacité de tension assez folle. S'ajoute à ça un casting quand même merveilleux. Moi, je suis ravie de revoir Kirsten Dunst, qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Je la trouve formidable en photographe un peu aigrie, dure, revenue de tout, et passant le flambeau, parce qu'il est quand même vaguement question d'une transmission avec la jeune photographe incarnée par Kelly Spacey. Moi, j'ai ce plaisir-là. Mais alors, si vous voulez y aller pour savoir qui sont les gentils, qui sont les méchants, c'est qui pas, tient sur c'est qui, pas bon c'est film. Pas la peine.
Xavier, qui me souriait.
À
oui,
moi
je
maintenant.
Suis sûr. Ouais.
D'accord. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du cinéma, mais tellement on adapte des jeux vidéo en film. Et là, je pense que ce film sera bientôt adapté en jeu vidéo, puisque c'est un scénario de jeu vidéo. On met les personnages principaux dont vous pouvez vous identifier, effectivement, à la vieille baroudeuse qui est revenue de tout, qui est traumatisée par tout. Vous pouvez vous identifier au mec super cool. Bon, d'accord, il fume des joints tout le temps, mais il est un peu sexy, il est un peu badass. Vous pouvez vous identifier au personnage un petit peu plus ventripotent, un peu plus âgé, qui se demande vraiment ce qu'il fait là. Comme moi, c'est le personnage auquel je me suis identifié. Ils prennent la voiture, et puis, alors, chaque fois qu'il y a un petit problème sur le bord de la route, plutôt que de faire demi-tour, ils y vont, hein, parce qu'il faut quand même bien nourrir la bête. C'est absolument consternant de mise en scène. C'est totalement fait au ralenti. Je pense qu'à vitesse normale, le film fait 1h15. Et ce serait tellement mieux. La fin est ahurissante, c'est-à-dire qu'au moment où ils arrivent à Washington, on leur dit « Ah ben c'est trop tard, c'est fini !»« Ah bon ? Ah merde ! Ah non ! Mais c'est pas possible !» C'est d'un mauvais goût éhonté. Il y a quelques scènes mises en scène, mais de façon mais tellement stupide, je peux absolument pas le dire parce que ça va divulgâcher, qu'on m'en voudrait beaucoup, même si je pense qu'une fois que les gens auront vu, ils me remercieraient d'avoir divulgâché la fin, ça leur permettrait de pas y aller, mais c'est horrible.
Donc tu as beaucoup aimé. Florence.
Alors, je trouve que
Florence monte au front.
Xavier, en voulant détruire ce film, vient d'en faire l'éloge. Parce que Xavier, tu nous dis, il y a un personnage comme ci, un personnage comme ça. Et moi, je trouve ces personnages intéressants, écrits par un romancier, avec des dialogues, des moments de pause qui sont assez fortes. Et il y a ce passage de relais entre le personnage de Lee et le personnage de Jess, donc Kirsten Dunst et Kelly Spacey, qui est très beau. J'ai aussi été touchée par cette vision d'une presse d'une autre époque, puisqu'on est dans un monde dystopique où plus rien ne marche, il n'y a plus d'internet, donc on reprend des photos. Et il y a une sorte d'éloge de la presse, une grande tradition du cinéma américain qui est fort. Et puis, pour moi, c'est un film plus politique qu'on ne le croit, parce que il est en fait en dialogue avec notre réalité. Bien sûr qu'il y a cette alliance absurde de la Californie et du Texas, où on se dit, ce serait impossible. Mais en fait, il y a plein de petits signaux dans le film qui renvoie à notre réalité politique d'aujourd'hui. Il y a cette scène, en effet, avec Jesse Plemons, dont tu parlais, Charlotte, qui est sidérante, où on a un soldat.
Un des personnages lui dit « Calmez-vous, nous sommes Américains ». Et voilà. Lui répond « Quel genre
d'Américain ?» Quel genre d'Américain ? Et là, on touche vraiment à cette grande fracture raciste qui traverse la société américaine. Et on est quand même dans une réalité beaucoup plus prégnante qu'on ne le dit là. Je pense que Alex Garland envoie des tas de signaux. Et du coup, le film est quand même très saisissant.
Nicolas ?
Je pense qu'il vise quelque chose de plus symbolique et qui en même temps n'est pas vraiment abouti parce que le film, mais parce qu'il vise une sorte de fable dystopique assez assez neutre politiquement effectivement et où chacun va remplir les blancs et les trous. C'est-à-dire qu'effectivement la Californie et le Texas qui font sécession, c'est absurde. Et il y aurait presque un film à faire à côté qui est toute la matière politique qu'il ne raconte pas. Après, moi, je trouve que là où il est fort, c'est vraiment sur la. Il essaie de cristalliser quelque chose de l'époque et d'intégrer à la fois l'influence du jeu vidéo et des films de guerre qu'on a vus, d'en faire une espèce de comme ça de magma. Donc moi, je trouve le film vraiment vraiment intéressant sur sa forme et sur ce qu'il essaye de comme ça d'encapsuler de l'époque et puis à côté road movie très la route de McCarthy, finalement c'est tellement désincarné toutes les menaces qu'il y a autour qu'on revient à l'essence d'une survie entre un cheptel de personnages comme ça qui ne sait même pas si les gens qu'il voit sont pas des zombies quoi. Enfin il y a quelque chose de comme
bah, ça, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un on est flippé.
Voilà, on est flippé, oui. On se demande si
c'est un danger potentiel et cette
peur de l'autre,
en sachant que la voiture va redémarrer.
Cette peur de l'autre, quel que soit l'autre, c'est pas inintéressant. Après voilà, le film est pas très très concluant sur le fond, mais sur la forme et sur l'efficacité de spectacle, il stimule des questions plus intéressantes qu'il ne les traite.
Une critique de votre part, c'est-à-dire de la part de vous, public du Théâtre de l'Alliance, concernant Civil War. Bonjour monsieur.
Philippe de Châtillon. J'y suis allé avec mon fils qui est étudiant en journalisme, et nous on a bien aimé l'aspect des reporters, la recherche du scoop, l'aspect journaliste, et je trouve est assez intelligent.
Merci pour votre intervention. On passe donc à Borgo. Troisième long métrage de Stéphane Demoustier, Borgo, c'est le nom d'un centre pénitentiaire à côté de Bastia, où Mélissa, Afsia Herzi à l'écran, vient de prendre ses fonctions de surveillante. Elle arrive de la banlieue parisienne, avec ses deux enfants et son mari Djibril. À Borgo, un détenu facilite l'intégration de Mélissa à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de la prison. D'un coup, le racisme auquel sa famille et elle sont confrontées n'existe plus. Et à partir de là, un engrenage de services rendus se met en place entre Mélissa et le détenu. Parallèlement à cette histoire, Stéphane Demoustier tresse le récit d'une enquête policière suite à l'assassinat de deux hommes à l'entrée de l'aéroport de Bastia. Quel est le lien entre Mélissa, la matone, comme disent les détenus, et la mort de ces deux hommes? Stéphane Demoustier s'est inspiré de faits réels pour cette histoire. La fiction qu'il en a conçue commence comme une intrigue policière qui devient un film de prison et finalement un portrait de femme. Je précise qu'il y a 15 jours, Borgo a reçu le prix du jury du Festival du film policier Reims Polar. Xavier.
Ah ben voilà un film que j'ai aimé, il n'y en aura pas beaucoup ce soir, donc on va en profiter, hein. On va glousser, on va ululer de plaisir. C'est le troisième film de Stéphane Demoustier, tu l'as très bien précisé, et je trouve que c'est un cinéaste qui m'intéresse beaucoup, mais je trouve qu'en termes de mise en scène, vraiment celui-ci, il y a un échelon supplémentaire qu'il gravit. Tu as très bien raconté l'histoire à partir de là, comment mettre en scène cette histoire qui est digne de Lucia de la Mer Morte, c'est-à-dire une femme qui est jetée dans un univers d'hommes, toxique par principe, politique par essence, et comment elle va essayer de trouver dans les rouages une place. Alors elle est facilitée effectivement par ce prisonnier qu'elle connaît déjà, mais comment elle va passer de victime par principe à un personnage plus complexe, c'est remarquablement mis en scène. Alors là, vraiment, il y a une idée de mise en scène qui correspond vraiment à ce que ressent le personnage à travers les labyrinthes, à travers les lignes de fuite, à travers les angles morts de la prison. On est vraiment avec elle, on est dans cette claustrophobie, et les rares moments où on s'éloigne de cela, c'est l'enquête, effectivement, en plus menée par Michel Faux et Pablo Poli, qui apporte une espèce de couleur tous les deux, comme ça, extrêmement différent de ce qu'on subit. C'est un film, moi, qui m'a vraiment pris par sa réalisation, par sa manière de nous claquemurer à l'image de son personnage principal. On se dit, ouais, elle va être victime de ces mecs, ils vont l'emmerder, et au début, c'est ce qu'ils font. Et en fait, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus retorse, elle est beaucoup plus ambiguë, elle est beaucoup plus malicieuse et maligne que cela. Et je trouve que c'est un film qui repose vraiment sur ce qu'on espère au cinéma, c'est-à-dire une mise en scène qui raconte vraiment de l'intérieur le récit qu'elle est en train de mettre en scène.
Et une comédienne remarquable.
Ah non, mais alors, c'est du coup qu'on parle d'Afia Herzi, on va faire plusieurs émissions. Voilà.
Mais je passe la parole à Charlotte.
Alors moi, je suis moins enthousiaste que Xavier, tout en reconnaissant toutes ses qualités. C'est vrai qu'en termes de mise en scène, et particulièrement sur les scènes de prison, je les trouve absolument remarquables. C'est presque quasi du documentaire, bien que ça ne le soit pas. Parlons d'Afsia Herzi, qui est assez fascinante. On a un peu l'impression qu'elle est sortie du film Le Ravissement, puis hop, elle se retrouve matone en Corse, c'est la même. À savoir, assez mystérieuse, assez ambiguë, assez opaque et assez impalpable. C'est-à-dire, on arrive pas toujours à saisir ses motivations ni même ses choix. Et moi, c'est ça qui me manque. Je ne comprends pas tous ses choix puisque, par rapport à l'intrigue policière, en tant que spectateur, on comprend quand même assez vite ce qui lie ces deux tableaux narratifs. J'essaie de pas en dire trop, mais bon, voilà. Et donc, il y a quelque chose qui m'échappe psychologiquement, et au bout d'un moment, je n'ai plus d'empathie parce que c'est un personnage, en fait, que je ne comprends pas. On peut trouver que c'est une qualité dans un film. Moi, il me manque quand même un peu une accroche émotionnelle, même si c'est sublimement mis en scène.
Bah, l'intelligence du film, en fait, c'est vraiment de jouer sur deux temporalités qui finissent par se rejoindre. Et on commence effectivement sur le meurtre. On suit un peu l'enquête au coup par coup des deux. Enfin, l'enquête derrière les bureaux,
regarder les
caméras de surveillance. Il aimerait bien la classer vite, l'enquête, le Michel Faux. Et puis à côté, cette matone qui arrive en Corse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois le personnage d'Avia Herzi est notre porte d'entrée dans le film et on découvre comment s'intégrer en Corse et la complexité d'arriver à s'intégrer en Corse. Et à côté de ça, petit à petit, le personnage devient de plus en plus une énigme dès lors qu'elle est repérée. Et c'est là où ce croisement-là est vraiment intéressant. Moi, je trouve qu'Avia Herzi, c'est vraiment une des forces du film. C'est-à-dire qu'elle a cette espèce d'art de donner sans rien laisser transparaître. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, elle a ses seuls accès de humain et d'émotion, c'est pour imposer son autorité, c'est une forme de violence. Et l'autre grande idée, c'est aussi d'être allé chercher Philippe Sard, qui a fait la musique du film et qui est formidable, qui donne un aspect romanesque au film par petites touches comme ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand même, c'est un film qui est réalisé à partir d'une histoire vraie, qui s'en inspire lointainement. Mais le procès va avoir lieu au mois de mai. Et c'est comment De Moustier arrive à se débrouiller, se dépatouiller pour ne pas non plus coller trop au récit originel. Et c'est intéressant d'essayer de lire l'histoire vraie et de voir le film pour voir comment il a décalé les choses pour ne pas que le film devienne à charge au moment du procès. C'est un film vraiment intéressant.
Florence.
Oui, j'aime beaucoup ce film aussi. Je trouve que ce qui est très beau, c'est que de façon très surprenante, le risque le plus fort que court ce personnage vient d'un jeune homme qui présente très bien, qui a l'air très doux. Pourtant, elle le rencontre en prison. C'est pas du tout un gros dur. Il y a une sorte d'attirance très subtile entre eux qui est jamais trop soulignée. Ça reste allusif et c'est très bien comme ça. Et on comprend que ça joue évidemment dans le fameux engrenage, mais qui n'est pas un engrenage si implacable. Il y a plusieurs moments où elle pourrait s'en sortir. Et c'est ça qui rend le film vraiment très intéressant. Et puis j'aimerais dire aussi que je décerne à ce film un label de corsitude totalement réussie en tant qu'experte.
Ça donne pas envie pourtant de...
Non, mais dans ce... évidemment, il y a quelque chose de très, très juste, même dans la représentation, en effet, de la réalité locale, dans les lieux, dans les interactions, les paysages. Il y a un petit moment où j'ai décroché, c'est quand les détenus chantent Mélissa de Julien Clerc en Corse et qu'on découvre qu'ils ont tous des voix d'ange et qu'il y a un côté polyphonie corse qui est totalement surprenant et peut-être pas tout à fait réaliste.
C'était l'expertise de Florence Colombani. Il va maintenant être question de Challengers, du cinéaste italien Luca Guadagnino. Luca Guadagnino s'était fait connaître avec Call Me By Your Name, film qui a révélé la superstar Timothée Chalamet, un film d'horreur, un film de cannibale et un documentaire plus tard. Voilà que Luca Guadagnino filme un trio dans le monde du tennis professionnel avec Challengers. Je vous présente donc les membres du trio du film. Patrick et Art, deux bons amis, aux pectoraux saillants autant que luisants et qui se jettent des œillades en croquant dans des bananes entre deux sets. Un beau jour, donc, Patrick et Art font la rencontre de la belle Tachi à la carrière prometteuse. Ils font des trucs à trois avant qu'elle ne choisisse Art. Mais le renoncement de Tachi, pour Patrick, est-il définitif? Tachi, victime d'une grave blessure, va devenir l'épouse et la coach impitoyable de Art avant que les deux hommes ne s'affrontent face à elle dans un tournoi de seconde zone. Zendaya, c'est Tachi. Josh O'Connor, c'est Patrick. Mike Feist, c'est Art. Et Nicolas Chaleur est le premier à parler pour Challengers.
Et ça m'a plutôt amusé. On ne sait pas trop ce qu'on va voir. Il y a un côté très clippé. Guadagnino, il s'est beaucoup amusé à inventer de nouvelles manières de filmer les matchs de tennis. Et ça, moi, ça m'amuse plutôt parce qu'en fait, le tennis...
C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est la balle, quoi.
Ah oui, on est carrément la balle. Et le tennis, en fait, c'est vraiment un prétexte. Le vrai sujet, c'est une espèce de triangle amoureux complètement dégénéré. C'est vraiment la rencontre entre une ambitieuse, un connard et un sentimental. Et moi, je me suis pris un peu d'affection au moment pour le sentimental. Je me suis un peu impliqué comme ça. On va dire c'est le personnage de Mike Feist. Et malheureusement, à un moment, j'ai été pris de court parce que Guadagnino est beaucoup plus cynique que ça. Et le sentimental, il s'en fiche un peu. Et ce qui l'amuse, en fait, c'est de faire une espèce d'exercice de style assez ludique sur une ambitieuse qui, pour moi, représente un peu comme ça le capitalisme américain, cette envie de gagner et d'avoir toujours plus au détriment de toute considération émotionnelle ou personnelle. Et puis, c'est l'autre personnage qui est quand même un petit profiteur. Et finalement, tous ces personnages girouettes qui n'ont pas vraiment de substance, je trouve que c'est une métaphore assez intéressante de notre époque. Mais après, c'est pas d'une grande grande intelligence. Il y a ce plaisir-là des acteurs de rendre Zendaya plus belle qu'elle n'a jamais été. Donc voilà, ce petit jeu entre acteurs.
Avec des scènes de baisers langoureux sur les capots des voitures.
Sur les capots des voitures, oui, voilà, ça c'est le côté un peu pubesque.
Florence.
Pourquoi on ne sait pas, enfin si on sait, parce qu'il y a des tonnes de marques, en fait c'est un film...
Il y a beaucoup de placements de produits.
Il y a eu beaucoup de placements de marques, comme
quand
on regarde. Mais
Guardani s'en défend en disant « Oui, mais en fait, c'est pour vous montrer à quel point dans la vraie vie, on ne les voit plus. »
Le problème, c'est qu'on les voit et que, surtout, c'est un film qui veut être érotique. Mais ça n'est pas du tout sexy parce que c'est vraiment lisse comme une pub. Et ça, c'est terrible. C'est que ça arrive vraiment à être le contraire de ce que ça veut être. Et ça fait tellement d'efforts. C'est-à-dire qu'en plus, on a des allers-retours dans le temps. On change de match. On est 12 ans avant, 6 mois plus tard, 2 semaines avant. Mais c'est pas amusant parce qu'on s'ennuie. Et puis, on s'ennuie terriblement.
C'est le truc du film, c'est qu'on arrive à comprendre alors que c'est quand même compliqué pour pas grand-chose.
Ouais, c'est compliqué pour pas grand-chose parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire. Il n'y a vraiment pas grand-chose.
Charlotte ?
Oui, non, mais cette construction, moi, je la trouve plutôt ludique parce que c'est presque le seul intérêt du film, on va dire. Ça démarre par une finale d'un tournoi de seconde zone avec ces deux tennismen qu'on ne connaît pas au début du film. Et peu à peu, on va découvrir qu'en fait, ils se connaissent et qu'ils ont donc cette femme en commun avec cette histoire de une fille, deux garçons, trois possibilités. Le problème, c'est que le film se voudrait...
Se voudrait
une relation triangulaire un peu sexy et transgressive, mais enfin, il s'arrête au roulage de pelle, quoi. Donc, ça reste finalement quand même assez chaste. Le problème, c'est qu'en termes de mise en scène, il noie tout ça dans des afféteries, alors des ralentis, des accélérés, une musique du début à la fin, et tout le final qui se voudrait un peu plein de tension est complètement noyé. Il y a plus d'effets que dans un clip de rap énervé, quoi. C'est insupportable. Après, moi, je suis un peu comme Nicolas, il y a quand même un petit plaisir assez ludique et rigolo à voir ça. La BO, elle est insupportable, mais elle est pas mal.
Elle est super.
Elle est vachement bien. C'est-à-dire qu'en fait, on sort du film en se disant, on va écouter la BO à la maison.
Ça donne envie d'aller danser.
Ou pour danser dans un club Ibiza, quoi. Mais pour le reste, on repassera.
Allez, Xavier,
tu t'es senti à Ibiza.
Outre le traumatisme d'enfance que représente le tennis chez moi, c'est un film d'une bêtise effroyable. À défaut d'être bisexuel, les héros sont extrêmement binaires. Donc nous en avons un dont on imagine qu'il va plier sa culotte, ranger ses chaussettes avant de faire l'amour, si tant est qu'il le fasse. L'autre, en revanche, c'est le bad guy. Donc les chaussettes, elles n'ont pas d'élastique, ils sont un peu sous les bras. Il a les vieilles tennis élimées. Choisissez votre camp. Mais c'est tout ce qui les définit quand même. Hein. C'est uniquement des critères vestimentaires. Et je crois que j'ai vu les deux plans les plus laids de ma vie. Je suis à deux doigts de prendre ma retraite. Il y a une espèce de triple focale à un moment où on voit les deux joueurs de part et d'autre du visage, plus exactement de dos, de Zendaya. Là, c'est horrible. C'est irregardable. Mais vraiment.
Et alors, quel plan c'est.
On en a un qui nous dégouline à la gueule en contre-plongée. C'est-à-dire qu'on a une douche de sueur, nous, spectateurs, sur nous. Alors peut-être que ça excite Luca Guadagnino. Mais moi, pas du tout. Je suis pas là pour me faire doucher par la sueur d'un acteur, quoi. Pardon, mais...
C'est rigolo, on dirait une pub pour un déodorant.
Mais le pire, c'est au ralenti. Non, mais mes enfants, il y en a marre. C'est moche, c'est bête, c'est con et c'est interminable. Je sais même pas pourquoi vous recommandez ce truc-là, quoi.
Une réaction dans la salle pour Challengers. Ah oui, bonjour.
Alors, je suis totalement d'accord avec vous, pour le coup. Et en plus, c'est vrai que Guadagnino nous prouve son côté très subtil, avec des métaphores à base de fruits encore un peu lourdingues. Comme dans le précédent Call Me By... Oui,
les deux mecs qui mangent des churros face à face.
Et c'est vrai que les 15 dernières minutes aussi sont un peu insupportables.
Il est bon ton churros? Ouais, il est croustillant, tu veux le goûter? Ouais, peut-être. Mais au secours.
Vous vouliez ajouter quelque chose? Merci beaucoup pour votre intervention. La suite se passe donc dans un lycée de Bruxelles. Amal y est enseignante de littérature et son prénom donne son titre au film dont on va débattre, Amal, un esprit libre de Jawad Ralib. Tandis qu'une de ses élèves subit l'homophobie d'une partie de sa classe, Amal décide de leur faire découvrir Nabou Awas, un poète du 8e siècle, arabe, musulman et bisexuel. À partir de là, cette enseignante va faire l'objet d'intimidations, de menaces de la part de plusieurs élèves, de la part de leurs parents et d'un prof de l'établissement. L'objet du film, c'est donc l'influence de l'intégrisme religieux dans le système scolaire belge, la façon dont une enseignante tente d'y faire face, la distance prise par ses collègues et sa hiérarchie, le déchaînement des réseaux sociaux, etc. etc. Après, pas de vague, on l'a dit, après la salle des profs, le cinéma se fait décidément caisse de résonance du malaise scolaire. L'idéal d'être et avoir, documentaire de Nicolas Philibert, c'était il y a 22 ans. Et je termine mon résumé en précisant qu'Amal est interprété par Loubna Azabal. Florence.
Je trouve que c'est un film qui a beaucoup de qualités et qui en même temps est très limité par son propos politique et construit. Donc forcément, avec lequel on est d'accord, c'est un propos pour la tolérance, contre l'extrémisme, un propos en défense des professeurs, et on ne peut que être touché par ça et glacé par ce qui arrive au personnage d'Amal, qui se retrouve en effet de quelqu'un de très passionné, très enflammé, peu à peu glacé par l'hostilité qu'elle rencontre, et de moins en moins à même d'exercer son métier, tellement la peur s'installe. Moi, vraiment, je suis en empathie absolue avec ce personnage et ses émotions et ce combat. Simplement, c'est un film aussi qui veut nous démontrer quelque chose, et c'est déjà dans le titre. Amal, un esprit libre, on est du côté d'Amal, on va la suivre. Alors, on découvre beaucoup de choses intéressantes, notamment pour des Français, par rapport au système belge et au fait qu'il y a des cours de religion, et dont on va découvrir qu'ils peuvent malheureusement donner lieu à des dérives terribles. Donc tout ça est passionnant. Le côté néo-documentaire du film est très fort. Mais il y a aussi un côté déroulé d'un programme auquel on peut difficilement échapper, sans doute, quand on fait un film de cette nature, qui fait que sur le plan du cinéma, on est quand même un peu en manque.
Xavier.
Je vais pas rajouter grand-chose parce que je suis entièrement d'accord avec Florence sur le film. Il faut quand même lui prêter cette qualité, c'est qu'il a écrit pratiquement il y a 6 ans et qu'il est d'une actualité prémonitoire, crucial. Tu as raison sur la construction scénaristique. Je trouve qu'il y a quand même 2-3 moments de mise en scène sur le côté très étranglé du personnage qui m'intéresse, le côté claustrophobique, la manière dont elle est entourée par cet acteur génial, Fabrizio Rongione, qui joue le prof de religion, mais pas de théologie, parce qu'on pourrait avoir une confusion. Et puis Loubna Azabal, quoi, qui est une actrice juste parfaite. Alors effectivement, ça pose un peu le problème, ça le résout, mais c'est indispensable.
Charlotte ?
Oui, quand même, moi je trouve que c'est un film alors qui a ces limites-là parce que c'est le propre du film à thèse, quoi, donc c'est assez manichéen, il y a en effet peu de nuances, mais je trouve que c'est quand même un film très sincère, ça c'est évident, et courageux, qui en tout cas a le courage d'aborder vraiment frontalement son sujet. C'est pas évident quand même de parler la montée de la radicalité et des islamistes dans le système de l'éducation. Et je reviens sur ce que disait Florence, parce que c'est très important. On apprend qu'en Belgique, les cours de religion sont non seulement obligatoires, mais les instructeurs sont nommés par leur culte respectif, donc complètement en dehors de l'éducation laïque, et que personne du corps enseignant n'a le droit d'entrer dans la classe. Il n'y a aucun pouvoir de contrôle sur le contenu des cours, ce qui paraît complètement dingue. Alors du coup, j'ai fait des petites recherches. C'est tellement fou que ces cours vont devenir non plus obligatoires normalement à la rentrée du mois de septembre, et ils seront facultatifs. En tout cas, ça nous montre une réalité qui est très forte, qui est très dérangeante. Le film le fait avec courage, peu de nuances malheureusement, et il est quand même porté par la détermination de Loubna Azabal, qui est formidable, mais autant que les ados et que Fabrizio Rongione, évidemment, dans un rôle quand même très difficile à défendre.
Nicolas ?
C'est délicat, après avoir dit un peu de bien de Challengers, de mettre des recherches sur ce film. Non, mais autant de Challengers est vraiment d'une superficialité, comme on a dit, et le propos est assez inepte, mais au moins il y a du fun et du ludique. Là, j'allais dire, le propos est fondamental, et je trouve que la forme suit pas derrière, et que je trouve ça quand même assez très très démonstratif. Je trouve ça très mal mis en scène et pas filmé. Enfin, alors Azabal est formidable parce qu'elle est vraiment animée d'une espèce de colère et de qui transparaît vraiment à l'écran, et c'est tout à fait c'est formidable, mais j'ai vraiment, le film montre une réalité quand même assez vraiment terrifiante, et je trouve que les moyens de mise cinéma qui sont utilisés pour la montrer sont pas les plus fins et adaptés. Voilà, je trouve ça vraiment très très démonstratif et pas très inspiré en termes de cinéma, mais bon, voilà, effectivement, le sujet, moi, le moment je m'égare.
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir pour participer à ce débat sur Amal, un esprit libre? Bonjour.
Bonjour. Alors moi j'ai vu le film et en tant que Belge et professeur et d'origine nord-africaine et ayant suivi les cours de religion quand j'étais adolescent, c'est un film qui a extrêmement résonné en moi. Je trouve que le jeu d'actrice qui est mené par Lubna Azabal est incroyable. Elle porte ce personnage de prof magnifiquement. Et ça dépeint une réalité qui est bien installée en Belgique. Et c'était intéressant d'entendre aussi le retour d'un regard français sur ce film.
Donc. Merci, merci beaucoup pour votre intervention. On termine donc avec le dernier film du programme qui a un mérite au moins, nous permettre de diffuser de la bonne musique. L'anglaise Amy Winehouse, donc, dont la vie et la musique font l'objet d'un biopic, quelques semaines après Bob Marley et avant des films dédiés à Bob Dylan, Bruce Springsteen ou encore Michael Jackson. Car comme le dit Belkacem Balouli, rédac chef de Rolling Stone, aujourd'hui les biopics musicaux, ça pousse comme des champignons après la pluie. Back to Black, film dédié à Amy Winehouse, porte le titre de l'album qui a fait connaître la chanteuse dans le monde entier et il retrace la genèse du disque lié à l'amour destructeur qui l'a notamment inspiré. Près de 15 ans après la mort d'Amy Winehouse à l'âge de 27 ans, c'est l'anglaise Marisa Abella qui l'incarne à l'écran. Et Mon Tout est signé par la cinéaste Sam Taylor Johnson, notamment connue pour avoir réalisé le premier volet de 50 nuances de Grey. Charlotte.
C'est effroyable. J'ai pas d'autres mots. C'est-à-dire que le film réduit Amy Winehouse à une amoureuse assez nunuche, larguée, toxico, et il se fout complètement de nous montrer l'artiste. Je veux dire, elle avait quand même un talent, je pourrais presque parler de génie musical quand même. Et alors là, son inspiration, à part juste raconter ses peines de cœur, on n'en sait rien. Et je trouve ça assez impardonnable quand même de réduire cette immense artiste à une amoureuse. C'est-à-dire, dès la première scène, quand elle rencontre son black, il est lourdeau, bourré dans un bar, elle tombe en pamoison. Là, on se dit, non mais c'est pas possible, elle est complètement cruche. Ça ne fonctionne pas. Alors après, je vais quand même dire que Marisa Abella, elle fait le job, comme on dit un peu vulgairement. Elle est plutôt bien. Après, tout le film communique sur le fait que c'est elle qui chante, alors c'est plutôt bien, mais dans ce cas, faut la doubler, quoi. Je veux dire, la voix d'Amy Winehouse, c'est pas possible de la reproduire. Et je terminerai pour dire que je suis extrêmement jalouse du journal Libération, qui a fait, je pense, la meilleure vanne de l'année en titrant « Rien à voir avec la choucroute ».
Florence.
Oui, je trouve que c'est un film complètement raté, qui donne très envie d'écouter du vrai Amy Winehouse, parce qu'on n'entend pas du Amy Winehouse pendant le film, on entend quand même une voix qui est en fait très différente, une voix beaucoup plus aiguë. Un film qui réduit, c'est tout à fait juste ce que disait Charlotte, qui réduit de façon choquante une grande artiste à pas grand-chose. Mais je sauverais deux scènes. Moi, il y a deux scènes qui m'ont plu. Alors, quand on est dans un mauvais film et qu'il y a deux scènes qui vous plaisent, eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Parce que tout à coup, on revient, on ressurgit, on se réveille. Et pour moi, c'est cette rencontre avec Blake, au contraire, dans le pub, parce que il lui fait écouter un groupe des années 60, les Shangri-Las.
Shangri-Las, formidable.
Sur le jukebox, il se met à mimer la chanson. Il y a quelque chose qui se passe, on y croit. On croit à cette attirance, on croit que c'est un coup de foudre. Et puis, pour moi, il y a une scène assez forte de déchéance qui est un concert où elle descend de scène et elle commence à aller dans le public et on sent que le groupe autour d'elle est dépassé par ce qu'il voit de ce qui est en train d'arriver à quelqu'un qu'ils aiment. En plus, on sent bien qu'il y a une relation forte entre eux. Donc j'ai été heureusement surprise par ces deux scènes, mais ça ne sauve pas le film en fait, ça a sauvé ma projection à moi.
Nicolas,
je rejoins Florence. Effectivement, la rencontre avec Blake, elle est vraiment bien. Et puis, il y a le bonheur d'écouter les Shangri-Las, et qui d'ailleurs reviennent à un autre moment du film, qui est l'autre moment bien du film. Il y a un montage avec, même avec Back to Black, qui c'est les deux moments un peu inspirés. Après, j'ai l'impression que le film a été fait pour racheter la réputation du père, parce que là, le père, il est tout gentil,
c'est un saint,
tout va bien, c'est un saint. Alors dans la réalité, c'était beaucoup
plus compliqué que ça. T'es laissé aller là-dessus parce que t'es un grand spécialiste.
C'était beaucoup plus ambigu et compliqué que ça, parce qu'il a quand même un peu profité de sa fille aussi. Donc ça, déjà, c'est une fausseté historique. Après, moi, j'ai l'impression que les biopics musicaux, qui sont quand même rarement réussis, il faut le dire, sont faits presque pour donner un rôle à une actrice ou un acteur, le rôle d'une vie et le rôle de leur vie. Et Marie-Isabella, moi, que je ne connaissais pas, je la trouve quand même assez convaincante. Moi, il y a des moments où je pensais que c'était la voix de Whitney Houston à certains moments, très honnêtement, alors que c'est quand même la plus grande chanteuse de soul de ce siècle-là et une des plus grandes qui ait eu. C'est effectivement dommage de réduire ça à la relation amoureuse compliquée qu'elle a avec ce type. Et puis, de toute façon, faire un biopic, qui est quand même un biopic qui est censé être grand public, parce qu'on voit la campagne, c'est sur une fille qui, dont l'histoire, c'était quand même un problème d'addiction à l'héroïne, à l'alcool, et pour raconter vraiment ce qu'était sa vie, il y a un moment où il y a
Danny
contradiction
Boyle.
Des intentions, quoi, et ça a toujours été le problème des biopics musicaux. Mais je crois que, voilà, pour deux scènes et pour l'actrice, mais ce qui est terrible, c'est que les biopics, voilà, je vais aller très vite, mais souvent les... Je voulais un peu évoquer Val Kilmer dans Les Doors ou Tom Hulce dans Amadeus. On a l'impression qu'après, les acteurs n'arrivent jamais à trouver des rôles à la hauteur. Et c'est ça qui est terrible, c'est que j'espère que Marie-Isabella trouvera d'autres rôles. Mais que les films sont faits que pour ça, en fait.
Mais Butler, après Elvis, il est dans
oui,
deux, il est formidable.
Pas mal.
Lui,
il
mais on va se reconcentrer sur Amy Winehouse. Et là, Xavier tourne la tête comme sur un match de tennis.
Ça n'a aucun intérêt, on réhabilite le père, on n'attaque pas frontalement non plus le petit copain, c'est plutôt elle qui s'en prend plein la gueule parce qu'effectivement elle est instable, le mec lui dit tout le temps, même dans la prison, mais reprends-toi, va faire une cure de Xanatox, et elle est vraiment responsable de sa propre chute, je trouve ça extrêmement douteux, et la meilleure scène, c'est le générique de fin, quoi. Moi, elle m'a libérée, vraiment.
Une contribution critique pour Back to Black.
Eh bien, vous l'avez dit, quand il existe des documentaires aussi remarquables que Amy de Capadia, qui avait fait Ayrton Senna, Maradona, etc. On ne fait pas ce genre de film, hormis pour des plans commerciaux. J'avais dit ici tout le mal que je pensais du Marley. Le seul qu'on peut sauver, c'est le contrôle de Corbin sur Joy Division.
C'est pourtant le même scénariste.
Le film est excellent et le documentaire aussi. Mais c'est l'exception. C'est une exception. N'allez pas voir ce genre de film. Regardez les documentaires excellents.
Qui avait eu l'Oscar du meilleur documentaire.
Absolument. En 2015. Et c'est le moment de mettre une virgule ici. C'est donc à vous pour vos coups de cœur. Et Florence, je crois que tu commences avec un livre.
Un livre qui s'appelle Busby Berkeley, l'homme qui fixait des vertiges. Si vous ne connaissez pas ce Busby, que les auteurs appellent Buzz, parce qu'apparemment on l'appelait comme ça, c'est plus simple. C'est un réalisateur de la grande époque du cinéma hollywoodien, réalisateur de comédies musicales. Et on croit l'avoir complètement oublié, on ne connaît plus son nom, on ne voit plus ses films, dont le plus connu s'appelle Les chercheuses d'or de 1935, donc c'est vous dire que ce n'est pas très connu. Et en fait, il a eu une influence extraordinaire sur le cinéma et sur la pub des bébés nageurs d'Evian, ça vient de lui. Les ballets dont rêve The Big Lebowski des frères Cohen, c'est encore lui. Donc c'est beaucoup de scènes psychédéliques avec des jambes de femmes qui sont comme des compas. Et des plans en plongée très impressionnants. Et donc ce livre de Séverine Danflous et Pierre-Julien Marais explore la vie et l'œuvre de ce cinéaste qui mérite vraiment d'être découvert.
On va redonner le titre.
Busby Berkeley, l'homme qui fixait des vertiges.
Charlotte.
Un documentaire de Klaus Drexel qui s'appelle « Les vieux ». Qui vient de sortir et c'est un titre qui n'est pas du tout une provocation, un petit pied de nez, parce que c'est, bon, les vieux, on n'a pas l'habitude d'employer ce mot-là. Donc, Klaus Drexel est parti à la rencontre de personnes âgées de 80 à plus de 100 ans, partout en France, de toutes conditions sociales, et avec des plans fixes et larges, il les fait parler de leur vie, de l'évolution de la société qu'ils ont vue. Et il y a des sujets qui émergent spontanément. Alors la guerre, évidemment, et pas seulement parce que c'est un drame lié à leur enfance, mais parce qu'elle les a vraiment marqués dans leur chair. Mais il nous parle aussi du travail des femmes qui s'est développé, du mariage. Enfin, ils ont un regard extrêmement beau, lucide et assez percutant sur les évolutions de la société. C'est même drôle par moments, très émouvant par d'autres. Et vous verrez qu'il y a des personnalités extrêmement attachante dans Les vieux de Klaus Drexel.
Merci Xavier.
Un livre paru aux éditions du Seuil intitulé Chantons sous les larmes et qui est signé Agathe Natanson. Agathe Natanson est comédienne, on se souvient d'elle dans La Maison des Bois de Maurice Pialat et elle fut la dernière épouse de Jean-Pierre Mariel. Je déteste définir les femmes en fonction de la... Elles sont les femmes d'eux, ça m'énerve. Mais c'est le sujet du livre. Il nous a quittés en 2019 et elle lui écrit depuis son veuvage. Elle avait écrit un livre précédent qui s'appelait « L'art de ne pas être grand-mère ». Eh bien là, c'est l'art d'être veuve. Ni joyeuse, ni triste, ni dans l'affliction. L'art d'être veuve, de gérer au quotidien le manque. Dieu sait si on peut imaginer que Jean-Pierre Marie, elle a laissé un manque derrière lui. C'est pudique, c'est intelligent, c'est bouleversant, c'est universel. Parce qu'elle ne va pas chercher les souvenirs de Marielle. Elle va juste chercher à retrouver de temps en temps, quand la bonne humeur est là, plutôt que la tristesse, eh ben, ouais, l'essence, l'humeur, la bonne humeur de l'homme qu'elle a aimé et du couple qu'ils ont formé, c'est absolument magnifique.
Et c'est bien écrit.
Et c'est très bien écrit, nous sommes d'accord.
Nicolas.
Alors moi, c'est un film qui s'appelle Bushman, qui est un film alors inédit qui date de 1971. Alors je crois qu'il est il est passé dans un festival à l'époque, mais je crois qu'il n'était jamais sorti en France. Qui raconte les rencontres d'un Nigérian prof de fac et sans papier dans le San Francisco de 1968. Et alors c'est un film vraiment d'un noir et blanc absolument somptueux. Et on suit ce personnage. On ne sait jamais vraiment si on est dans une fiction ou un documentaire. Ça qui est assez fascinant. La première image est assez frappante. Il se balade avec une chaussure sur la tête le long d'une route déserte et de l'autoroute aux États-Unis. Il va rencontrer plein de gens. On est vraiment, vraiment à la croisée du cinéma vérité et des fictions contre-culturelles de l'époque. C'est vraiment, vraiment très beau. Le personnage est vraiment très touchant et très, très beau et assez fascinant. Et c'est un témoignage d'époque qui, en même temps, qui a des échos vraiment très actuels sur l'accueil de l'autre, sur le racisme aux États-Unis, mais pas du tout dans un geste revanchard ou contestataire. Il y a vraiment quelque chose d'assez apaisé dans le film. C'est réalisé par un type qui s'appelle David Chiquelot, qui a réalisé que trois films, qui était surtout acteur et musicien. Et donc voilà, c'est vraiment une vraie curiosité que je vous invite.
Bushman. Et je pense que je ne vais pas avoir le temps pour ma part de livrer mon coup de cœur. Donc Florence Colombani, Charlotte Lipinska, Xavier Le Herpeur et Nicolas Chaleur, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque. On se revoit bientôt et la semaine prochaine à cette tribune, nous parlerons de livres. C'est Audrey Ripouille et Anaïs Renard qui réalisent Le Masque et La Plume. Et aujourd'hui, c'était avec Marie Le Peintre, Philippe Thibault et Clément Berman. Ilinka Negulesco prépare l'émission avec Célestine Célestine. Ma bande et moi vous donnons rendez-vous dimanche prochain sur France Inter, évidemment.